Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Merci de nous suivre sur www.radiocapi.net. Comment obtenir la reconnaissance internationale du génocide congolais? On en discute aujourd'hui dans cette émission avec professeur Serge Makaya qui est là. Il est membre de la coordination du comité scientifique préparatoire de cette table ronde. Professeur Serge Makaya, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il n'est pas seul dans ce studio. Nous avons également professeur Sarah Liouerant. Voilà, elle est directrice adjointe de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, en charge de la recherche et chercheuse associée au crèche. Qui est le centre de recherche en sciences humaines. Professeur Sarah, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations? Le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, on va échanger sur les bénéfices de l'autonomisation économique de la femme. Avec une équipe du projet Pour Elle, voilà, équipe du projet Pour Elle qui est mise en œuvre par Expertise France en collaboration avec le gouvernement congolais. Voilà, ainsi présenté les menus de l'émission du jour. Appelez au 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiocapi.net et postez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation, Polydor Bansunga la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de la reconnaissance du génocide congolais. Vous savez, depuis plus de trois décennies, la République démocratique du Congo est victime d'agressions armées occasionnant des massacres et des violations graves des droits humains. Plus de 10 millions de personnes ont perdu la vie dans ces conflits liés à la convoitise des richesses du Congo, occasionnant le pillage systématique des ressources naturelles. C'est dans ces contextes qu'est né même le concept de génocide, désignant cette tragédie humaine perpétrée pour des intérêts économiques. À ce sujet, une table ronde sera organisée à Kinshasa par le CIAVAR, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, en collaboration avec le FONAREV, pour construire un plaidoyer fort en faveur de la reconnaissance du génocide congolais par la communauté internationale. Alors, quels sont les mécanismes de reconnaissance internationale de crimes de génocide et comment la population congolaise peut s'approprier de cela? Eh bien, nous allons échanger autour de cette thématique avec nos invités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dans ce studio le professeur Serge Makaya qui est là, qui est membre de la coordination du comité scientifique préparatoire de cette table ronde. Il est aussi professeur à la faculté des droits à l'université de Kinshasa. Professeur Serge Makaya, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, vous organisez dans quelques jours une table ronde sur les thèmes engageons-nous sur l'appropriation des holocaustes et à la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix. Quel en est l'objectif?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'objectif de ces assises, ou parmi les objectifs de ces assises, c'est la construction d'une stratégie d'appropriation collective du génocide, mais également l'idée de la construction d'un plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide commis sur le territoire de la RDC, et enfin, construire des méthodes pour la promotion de la culture de la paix.
Alors, on parle aujourd'hui du génocide. Pouvez-vous nous rappeler les contextes qui permet qu'aujourd'hui on puisse s'approprier de ce concept?
Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre pertinente question. Le génocide ne doit pas être confondu avec le génocide. C'est vrai, dans la loi, on définit le génocide comme les génocides congolais pour des gains économiques. Mais il faut tout de suite indiquer que le génocide, c'est un label de commémoration d'hommage aux innombrables victimes que connaît la RDC depuis près de trois décennies, ou plus de trois décennies. Et donc, dans les génocides, il y a tous les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, il y a les génocides, il y a les crimes contre l'humanité, il y a les crimes de guerre. Toutes les victimes de ces crimes-là sont commémorées par ce concept de génocide.
Et c'est le 2 août de chaque année. Hein?
Oui, et le 2 août de chaque année a été retenu par les législateurs comme une date de commémoration et d'hommage à toutes les victimes que la RDC connaît depuis toutes ces années de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme.
Alors une autre question est de savoir pourquoi les Congolais doivent-ils s'approprier de ce concept de génocide.
Oui, il est très important pour les Congolais de s'approprier de ce concept. D'abord parce que c'est un concept qui marque une forme de rupture entre l'indifférence nationale constatée et la souffrance des victimes qui étaient plongées dans un silence assourdissant. Depuis près de 30 ans, les victimes sont là et on n'en parle pas assez. Aucune prise en charge, aucune réparation. Et tous les accords politiques pour la quête de la paix que notre pays a connus, c'était pratiquement sur les cendres de plusieurs millions de morts, sans se préoccuper de la situation et du sort de toutes les autres victimes survivantes et même les déplacés internes. Et donc, il faut louer le courage du législateur qui a rompu ces silences le 26 décembre 2022 en consacrant la loi portant principe fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et donc, cette commémoration du 2 août permet de briser ce silence, de reconnaître sur le plan national la souffrance des victimes, mais également susciter un déclic du patriotisme. Il faut que les Congolais puissent savoir que les raisons de toutes les atrocités que nous connaissons dans notre pays. Cette appropriation permet donc de sensibiliser tous les Congolais autour de, non seulement des victimes, autour de besoins qu'il y a à ne pas céder aux appâts de tous ceux qui veulent déstabiliser les pays. Et donc, les génocides, comme le terme l'indique, génocide pour des gains économiques, la réflexion était pourquoi le Congo souffre tant. Le Congo souffre parce qu'il a plusieurs richesses. Et à cause de ces richesses, il y a des massacres, il y a des atrocités, il y a une déstabilisation construite. Et ça, il faut que chaque Congolais puisse le savoir.
Et ces massacres ont été même documentés avec le rapport Mapping.
Oui, il n'y a pas que
d'autres rapports.
Il n'y a pas que les rapports Mapping, il y a plusieurs rapports qui ont documenté et il y a même plusieurs condamnations sur le plan judiciaire aussi. Et donc, il est important que les Congolais. Je vais vous donner un exemple, monsieur le journaliste. Lorsque il y a des tueries à Beni, il y a des tueries à Goma, des tueries à Bukavu et qu'à Kinshasa, les gens mènent leur vie comme si de rien n'était.
Ils vaquent à leurs occupations.
Ça ressemble à une maison qui a plusieurs chambres, dont dans certaines chambres, les enfants de la maison sont massacrés, violés, violentés, alors qu'au salon, les gens prennent la bière. Et donc, ça, c'est l'occasion de mettre... d'attirer l'attention de tous les Congolais autour de toutes les difficultés que connaît le pays.
Bien, vous n'êtes pas seul sur, dans ce studio. Nous avons professeur Sarah Liwirant, qui est directrice adjointe de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, en charge de la recherche, et chercheuse associée au CRECH, le centre de recherche en sciences humaines. Professeur Sarah, pensez-vous qu'une victime peut s'approprier d'une situation ou d'un concept qui a justement fait d'elle une victime ?
Je vous remercie pour cette question parce que c'est une question centrale et c'est une question qui a fait l'objet de discussions sur ce terme appropriation. La question finalement, c'est ce que disait donc mon collègue le professeur Serge Makaya, ce n'est pas tant pour les victimes que que les victimes finalement soient reconnues par l'ensemble en fait de la population du pays, même si effectivement il peut y avoir des distances importantes. Donc l'idée c'est de retisser un tissu social et je trouve que le slogan du Fonarev, donc qui est co-organisateur de cette table ronde, qui est plus jamais seul, signifie justement le fait que les victimes doivent être reconnues et s'approprier, c'est-à-dire effectivement se retrouver justement dans cette nation et qu'effectivement, si je reprends l'exemple de mon collègue, que tout se retrouve au salon. C'est plutôt cette idée-là de l'appropriation parce que pour les victimes, la question de la reconnaissance des violences qui leur ont été infligées est absolument fondamentale. Alors évidemment une reconnaissance internationale, mais aussi une reconnaissance auprès de leurs concitoyens et leurs concitoyennes. Pour pas qu'effectivement il y ait des catégories au sein du pays qui soient finalement des catégories dont on ne prend... qu'on ne prend pas en considération. Et c'est ça à ce titre-là. Et l'autre point qui est intéressant sur l'appropriation du génocide, c'est qu'effectivement, comme le disait mon collègue, c'est que c'est pour toutes les violences. On ne distingue pas si elles ont été victimes de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. C'est pour toutes les violences extrêmes qui leur ont été infligées et qu'elles ont subies. L'autre point qui est effectivement extrêmement important sur la question du génocide et de l'appropriation collective du génocide, ce terme a été formulé par la société civile. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est venu de la population elle-même qui a formulé et choisi ce terme-là et qui l'a choisi aussi pour aller à l'encontre de ce discours qu'on peut entendre de violences interethniques, intercommunautaires, intertribales, comme vous voulez, parce que justement il n'y a pas la question de la violence n'est pas la question des violences interethniques ou intertribales, mais il y a des entrepreneurs de violence justement pour aussi notamment piller donc les ressources naturelles de notre pays. Et ça me paraît très important de souligner le fait de se mettre en porte-à-faux et de rejeter ce discours de conflits interethniques, intertribaux, de tribaux qui finalement relèvent d'un discours qui remonte aux temps coloniaux.
Professeur Sarah, quels sont les chiffres du génocide congolais ?
Alors, plus de 10 millions, ça c'est sûr. Le travail est en cours pour le dénombrement. Le dénombrement est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement le pays est grand. D'autre part, parce qu'il y a des disparus. Et donc, pouvoir compter les disparus, eh bien, ça prend du temps. Parce qu'il faut une méthodologie extrêmement rigoureuse pour effectivement avoir des chiffres qui soient crédibles. Mais plus de 10 millions, c'est le chiffre qui est avancé pour l'instant, tout simplement parce qu'il y a déjà des faits qui ont été établis, et notamment par des sources dont on ne peut pas remettre en question la légitimité, comme le rapport Mapping qui a été des Nations Unies qui a été déjà cité.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Monsieur Kachai qui nous appelle des Kanyoka dans le Kasaï central. Kachai, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à Messieurs dames les professeurs et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la reconnaissance du génocide congolais?
Merci beaucoup Monsieur Jody de la question. Je vous parle avec des larmes aux yeux, pensant à nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, de Maïndombe, qui croupissent dans la misère, dans les tueries, massacres, viols, vols, pillages et les atrocités de tout genre. Monsieur Jody, nous nous inclinons devant ces innocentes âmes qui sont parties à l'au-delà. Que Dieu nous pardonne tous. C'est le problème du Congolais, Monsieur Jody. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont dans la partie orientale. Alors, nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, le monde entier est parvenu à détruire le mensonge du Rwanda sur la présence des FDLR qu'il prétend protéger dans un autre État. Nous sommes contents parce que le monde entier est maintenant debout au-delà de la situation qui se passe à l'Ukraine, lui imposée par la Russie. On nous considère, nous les Noirs, nous les Congolais. Mais Monsieur Jody, il doit y avoir un problème. Parce qu'on a déjà reconnu les génocides congolais après 30 ans, parce que personne ne pouvait faire un bon lobbying pour convaincre les Occidentaux, à savoir que il y a eu tuerie, viol, massacre. Donc, il y a eu violation des droits de l'homme de tout bord en RDC. Alors, aujourd'hui, il faudrait maintenant que les Congolais eux-mêmes se tiennent debout. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient victimes d'un mal dont ils sont eux-mêmes les premières victimes, pour bien dire. Alors, nous voulons dire ceci, Monsieur Jody, parce qu'on veut que le monde entier puisse prendre alors des décisions, des sanctions, puisse compatir avec les Congolais. Nous voulons maintenant des sanctions concrètes dans cette reconnaissance-là. On a reconnu, ok, ça va. Le Conseil des Nations Unies a pris l'émission, et ça va. Mais qu'en est-il des mesures d'accompagnement de toutes ces sanctions prises, non seulement par les États, mais aussi par les Nations Unies? Qu'en est-il des sanctions prises par les organisations sous-régionales? Parce qu'il y a les rapports Mapping qui existent. OCHA continue à faire aussi son rapport. Il y a beaucoup de pays. Le procureur de la CPI était venu au Congo. Il a demandé aux organisations de la société civile de faire de présenter les preuves pour convaincre. La CPI a diligenté les poursuites contre les auteurs connus, bien connus, cités, Nanga, Kagame, Bissimwa, Kabila et toute sa bande. Alors, nous voulons que toutes les organisations internationales se tiennent debout. Nous voulons que les Congolais continuent à dénoncer.
Mais
les dénonciations doivent être contenues dans les documents pouvant convaincre
Merci.
Le monde entier à toujours accepter que nous sommes violés, massacrés, tués, pillés au jour les jours.
Merci. Merci beaucoup. Merci Kachai. On a compris votre préoccupation. Professeur Serge Makaya, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci beaucoup, Monsieur Kachai. Je comprends l'émotion de l'auditeur. Tout homme sensé qui analyse la situation en RDC ne peut que être dans cette situation de M. Kachai. Alors, sauf que là, il faut faire un distinguo. Il y a d'une part reconnaître les atrocités que connaît la République démocratique du Congo, reconnaître la présence des armées étrangères sur les sols de la République démocratique du Congo, c'est un aspect. Ici, nous parlons du génocide et du génocide. Alors, déjà,
ce sont deux concepts différents.
Deux concepts différents. Il faut déjà rappeler à M. Katchay que le génocide sur les territoires de la RDC n'est pas encore reconnu. Et donc, cette reconnaissance n'existe pas encore. Ce qui est consacré, c'est le génocide. Et le génocide, c'est un concept purement national. Il est très difficile d'aller avec pour brandir sur le plan international ou plaider sur ce concept au plan international. Il faut peut-être faire un effort pour l'imposer, comme l'ont fait les Juifs avec la Shoah et d'autres.
Oui.
Mais en entendant, c'est d'abord un concept qui s'applique sur le plan interne. Et ce concept a été défini par les législateurs comme les génocides pour des gains économiques.
Économique.
Génocide congolais pour des gains économiques.
Mais donc, cette table ronde va s'articuler autour de l'appropriation du génocide au niveau national et la reconnaissance du génocide au niveau international.
Voilà. Donc, les génocide, c'est un paradigme, entre guillemets, ou un concept de commémoration et d'hommage aux victimes célébrées chaque 2 août. Chaque 2 août, le Congo s'arrête pour regarder en face toutes les victimes qu'il a. Les victimes du passif du passé, mais les victimes du passif du présent aussi. Parce que pendant qu'on célèbre, on a célébré la première édition, la deuxième édition, les victimes continuent à être victimisées, entre guillemets.
Oui, on continue à enregistrer les victimes.
On continue à enregistrer les victimes.
Oui.
Alors, ce que l'on veut dans cette table ronde, c'est que chaque Congolais puisse se souvenir de toutes ces victimes.
Professeur Serra, quels sont les mécanismes ou le processus de reconnaissance d'un génocide, comme c'était le cas en Arménie, en ex-Yougoslavie, la Shoah chez les Juifs? Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, ça s'est passé des trois situations dont vous parlez, ça s'est passé de façon extrêmement différente. En fait, il n'y a pas une recette, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison d'être de cette table ronde qui va être organisée. Je voudrais, avant juste de répondre à votre question, effectivement, comme disait mon collègue, l'auditeur parlait des sanctions concrètes, mais avant même des sanctions concrètes, il faut effectivement la question de la reconnaissance et de l'appropriation. Et la reconnaissance, même au niveau international, n'est pas effectuée. En tous les cas, pas encore. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est extrêmement important. Alors, je vais répondre à votre question à travers, justement, l'objectif de la table ronde, pour nous, la RDC. C'est justement pour arriver à cette reconnaissance et à rendre hommage aux victimes et à restaurer leur dignité, puisque les actes de cruauté nient toute dignité et nient toute humanité appartenance à l'humanité, donc, de ces victimes, effectivement, la question de la construction de l'histoire, de l'écriture de l'histoire, des violences extrêmes. Alors, je parle de violences extrêmes pour justement ne pas distinguer génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre, puisque cette distinction, elle est faite devant les juridictions. Et donc il faut déjà qu'il y ait aussi l'écriture de l'histoire qui accompagne des politiques de mémoire telles que a commencé à l'initier le législateur à travers cette loi donc de décembre 2022, mais aussi si on parle de récit national et justement de mémoire, c'est aussi travailler avec l'enseignement, les écoles. Il faut qu'effectivement ce soit pas simplement, quand vous me parliez tout à l'heure d'appropriation par les victimes, c'est simple, il faut pas que ça reste au niveau par exemple familial, que les enfants sachent effectivement ceux qui ont vécu directement ou indirectement par des parents qui ont pu être assassinés, exterminés, et bien que ce soit inséré dans un discours national, dans une histoire nationale, et
que
pas
cela soit enseigné à l'école, que les
que
enfants
soit exactement, ouais. et que ce soit enseigné, que ça ne reste pas au niveau familial ou au niveau communautaire. Et ça, ça fait partie aussi justement de cette reconnaissance. Au niveau international, il y a évidemment aussi des actions politiques.
Il faut construire un plaidoyer fort.
Exactement, diplomatique. Politique, éventuellement judiciaire, aussi devant la Cour pénale internationale, devant la Cour internationale de justice. C'est comme ça, effectivement, que on arrivera à ce que le génocide des Congolais soit reconnu dans l'histoire mondiale des génocides ou des violences
donc
extrêmes.
C'était le cas en ex-Yougoslavie.
Alors, en ex-Yougoslavie, bon, vous me posiez la question comment ça s'est fait. Ça s'est fait de façon différente. Parce que le génocide des Arméniens n'a pas été reconnu pendant des décennies et des décennies et n'est pas toujours reconnu par un certain nombre de pays, ce qui a constitué aussi justement une il y a des enjeux, y compris parmi les descendants, puisque le génocide des Arméniens, je rappelle, c'est 1915. Aujourd'hui, on est à plus de 5 générations et qu'il y a transmission du trauma, qui ont été vécues X années de génération, et que une des raisons, enfin en tous les cas, un des piliers, justement, c'est la reconnaissance. Oui. Je ne dis pas que tout part avec la reconnaissance, mais en tous les cas, c'est la première étape.
À l'instant, professeur, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent, qui veulent intervenir. On va les accueillir. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, Patti de Bandundouville, Malonga est également à Bandundouville. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, hein. Bonjour également aux invités. Donc, le sujet, il est très pertinent parce que vous savez... Il fait la une parce que notre pays fait face à plusieurs situations. Et c'est pratiquement toute l'Afrique qui est mise à mal avec tout ce que nous connaissons comme situation du siècle. Moi, je pense que lorsque nous parlons des génocides, c'est déjà une maladie. Et vous savez, ici chez nous en Afrique, que vous soyez génocidaire, mais après les comptes, c'est l'amnistie qu'il a. C'est là que moi je me dis que les choses marchent très mal presque dans tous les organismes mondiaux. Parce que je me dis que c'est inconcevable. Quelqu'un qui s'attaque de manière intentionnelle à un groupe humain, mais vous le verrez entrer aux affaires et devenir un président qui s'impose sur toute la région. Pendant que ce monsieur a été génocidaire il y a des années. C'est là que moi je ne comprends absolument rien. C'est là que moi je me dis, il faut, parce que génocide est une maladie, il faut passer par la prévention. Comment passer par la prévention? Il faut s'attaquer à la discrimination et aux préjugés. Et aussi s'attaquer à toute forme de haine. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a l'animosité qui prend de l'ampleur parce que tel pays a des richesses. On s'attaque intentionnellement à ce pays-là. On s'attaque intentionnellement à un groupe d'hommes pour les exterminer, les faire écarter, n'est-ce pas, de la nature. Ça, c'est inacceptable. C'est là que je me dis ceci. Il faut nécessairement, là j'interpelle, que ce soit la communauté internationale, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont aussi victimes de tout ce que nous sommes en train, dont nous parlons aujourd'hui. Alors, il faut que les gens se mettent ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, trancher ce problème, pour que si génocide il y a, qu'il y puisse y avoir des sanctions sévères et exemplaires. Aujourd'hui, la CPI, hélas, seulement par figuration, elle est impuissante devant des grandes nations, des grandes puissances. C'est là que moi je me dis qu'il faut que ces concepts soient mis réellement en exergue pour que réellement on puisse freiner l'élan de ce que nous sommes en train de voir. Sinon, il y a la haine, il y a des problèmes des races, donc c'est-à-dire, quand on est blanc, on ne veut pas, on prend un noir comme étant, n'est-ce pas, une bête. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir éradiquer. Et il y a des nations, on ne peut pas encourager ça. Aujourd'hui, on parle même des crimes contre l'humanité. Tout se registre, mais vous voyez des gens passer et inaperçus. Ils sont là calmement. Et quand il y a des rencontres comme ça, autour soit d'un dialogue, on parle de l'amnistie. On oublie les génocides, on oublie tout ça. C'est là que moi, je me dis que, mais après, il y a l'irréparable. Comment on peut réparer ça? Ça devient maintenant compliqué. C'est là que je me dis qu'il faut toujours anticiper les événements au lieu de vivre les conséquences et parler de génocide comme si c'était un simple vocabulaire, alors qu'il n'en est rien, ça fait causer des dégâts, et c'est le monde qui perd, et surtout quand on parle en Afrique,
beaucoup.
Et surtout d'accord. notre pays qui
Merci.
Fait face à des situations pareilles. Les Rwandais, vous savez, il y a des années, on en a connu, hein.
D'accord, merci. On a compris. Merci beaucoup, Jérémy Mwamba de Lumbashi. On va donner la parole à Patty Maïmba depuis Bandundouville. Patty, bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, cher Jodier, et bonjour à nos invités qui sont au plateau avec vous, les professeurs. Certes, les génocidaires continuent à faire leur entrée dans notre pays et ils continuent d'être alimenté par les ennemis de notre pays. Ils viennent pour faire tout ce que nous décrions ici. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que ce concept est une réalité ou c'est juste un vocable pour nous endormir? Quand nous voyons, il y a déjà assis la table les rendez-vous comme quoi les génocidaires, ils vont se rencontrer avec les dirigeants pour négocier, pour parler. Je ne sais pas. Après là, ils seront lavés dans l'eau de Javel. Ils seront plus blancs même que la neige. Comme Jérémy Mwamba venait de le dire, ce sont ces gens-là. Nous avons un mauvais souvenir de Sun City. Il y a aujourd'hui les gens qui ont tué nos frères. Ils ont même pilé les autres dans des mortiers, comme si c'était des gourges. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans ces pays, ils sont en train de faire la loi. Ils se promènent librement. Ils sont les saints. Et aujourd'hui, nous écoutons encore. Nanga et sa bande vont être sur les bancs. Ils vont négocier. Maintenant, tous nos frères qui sont morts ici, quelle sera la suite? Et cette question, c'est pour la énième fois que je pose. Les professeurs qui sont là au plateau avec vous. Rwanda ne reconnaît pas la compétence de la CPI. Quelle sera la suite? Parce que jusqu'aujourd'hui, son pays voisin ici, avec lequel ils étaient venus tuer encore nos frères à Kisangani, Burundi, je vois là. Mais elle avait quand même payé.
Il continue. Vous voulez parler de l'Ouganda? Vous voulez plutôt parler de l'Ouganda?
De l'Ouganda, voilà. L'Ouganda, l'Ouganda, s'il vous plaît. Mais elle, quand même, ont payé quelque chose, malgré ce qu'ils ont payé, ne représente rien. Mais quand même. Mais les petits Rwandais ici ne reconnaissent rien. Et aujourd'hui, on veut déjà aller négocier avec eux. On nous parlait que M23 n'existe pas. C'est une carapace vide. Mais aujourd'hui, on veut négocier avec eux. Ces gens-là vont réclamer des postes. N'est-ce pas? Ils seront lavés.
Merci, Patty. Les invités vont répondre à votre préoccupation tout à l'heure. Merci d'avoir appelé Malonga. Vous êtes aussi à Bandounouville. Bonjour.
Oui, bonjour, mon ami Jody. Et bonjour à l'invité, à tous ceux qui nous suivent. Et merci, mon frère Patty, d'ici chez nous à Bandounouville.
Voilà, nous parlons.
Dis, vous savez, ce que nous subissons aujourd'hui, ça a été préparé au préalable, puisque ce n'est pas un hasard. Nous sommes informés, puisque le monde croit que nous, les Congolais, nous sommes des fainéants, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien, c'est comme ça, on nous prend comme des bêtes comme ça. Or, ça a été préparé. Même les noms Banyamulenge, même la Libye de Hutu et de Rabwe, non, ça a été préparé qu'il faut fabriquer cela pour que nous ayons une raison de pénétrer et d'assiéger les Congolais. Nous les connaissons. Et moi, je vois c'est à chaque fois le pouvoir démocrate de l'Amérique est au pouvoir. L'Afrique centrale, que nous sommes, nous, la RDC, nous subissons ceci. Nous avions commencé avec le règne de Bill Clinton. Nous savons ça. Nous, les Congolais, nous le savons. Alors, nous ne pouvons pas prendre de grandes choses à moindre comme ça. Il faut que nous nous réunissions. Même Nanga qui est là. Nanga, il est Congolais de père et de mère. Il n'oublie pas. Il dit aujourd'hui qu'il ne peut pas dialoguer avec Tshisekedi puisqu'il est illégitime. Qui a proclamé Tshisekedi président de la République? Ce n'est pas lui. Donc, c'est lui qui est mauvais. Il s'accuse lui-même. Tout ça... Il faut que l'opinion internationale et la communauté internationale sachent que nous connaissons ce que nous vivons. Et
d'accord. Alors, Malonga, quelles sont les questions que vous adressez aux invités? Oui, on a compris. Maintenant, quelles sont les questions que vous adressez aux invités qui sont sur ce plateau?
Oui, la question. Nous avions créé la génocide. Voilà. Comme aussi, et aussi, les Rwandais ont subi la génocide. Oui, c'est là. Les génocos, oui, c'est fini. Nous avions perdu nos frères et le sœur. Qu'est-ce que la communauté internationale, est-ce qu'elle considère ce que nous avions conçu, la génocos? Ou bien elle est en train seulement d'accentuer que nous commençons à chanter seulement.
Bon, les invités ont dit les génocos, c'est au niveau national. Donc, l'appropriation au niveau national, mais il y a des démarches pour la reconnaissance du génocide congolais sur le plan international. Ils vont vous donner des précisions tout à l'heure. Le temps d'accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jedi, et bonjour à nos invités. Bon, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, monsieur Jedi. Ouais, je disais, si les Congolais s'unissent autour d'une idée, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment louable. Mais il y a aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Maintenant, plus de 30 ans, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, où il n'y a pas toujours la paix. On se demande, il y a même un Camerounais qui a même écrit un livre sur ça. Il a même été arrêté pour ça. Mais aujourd'hui, je vois encore, il y a des prospères qui vont organiser encore une table ronde pour discuter sur ça. Nous, on se pose au Congo. C'est comme si le problème du Congo, les gens nous disent ça. Pour qu'on ne puisse pas encore se dire un peu ce genre de choses, il faut que notre gouvernement, tout d'abord, puisse organiser. Parce que ce n'est pas à toute fois qu'on puisse toujours parler toujours des mêmes choses. Aujourd'hui, si vous regardez encore les mêmes gens qui ont fait des choses-là, on sera encore reconduit au gouvernement ou bien avoir des postes. Mais ça sera toujours comme un slogan à toute histoire qu'on peut toujours parler des génocides, des génocides, c'est toujours le même histoire. Comme les porteurs ont pris quand même l'initiative, si ils peuvent chercher quand même les gens qui dirigent, après même le gouvernement ou même au niveau de la présidence, qu'ils puissent discuter sur ça et trouver une solution pour tout, ça sera bon. Au lieu qu'à chaque fois qu'on puisse toujours. Il y a toujours des rapports qui sortent. Aujourd'hui, vous avez vu avec les Nations Unies, il y a 27-73, on a obligé que les Rwanda et les M23 puissent quitter l'est de la RDC. Mais ces gens-là n'exécutent pas ça. Il y a toujours des minéraux qui sont toujours pillés.
D'accord.
Si on continue toujours dans cet allure,
oui,
et le gouvernement, que nos dirigeants ne prennent pas les choses au sérieux, on sera toujours dans les mêmes habitudes, on sera là toujours pour faire des conférences.
Merci beaucoup.
Dans d'autres pays, on trouve des solutions.
On trouve des solutions rapidement. D'accord. Merci Roger Marcel pour vos. Merci à tous les intervenants, disons à tous les intervenants pour vos préoccupations. Professeur Serge Makaya, oui, vous avez suivi les différentes préoccupations, points de vue, votre réaction.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai dit merci à tous les auditeurs et cela dénote de l'intérêt particulier qu'ils accordent à non seulement cette émission, mais également ces thèmes, au vu de la passion, au vu des interventions.
La santé, l'émotion, la oui, charge émotionnelle, tout ça.
Absolument. Alors, pour Patty Mayimba, non, je commence par Jérémy Mwamba. L'approche préventive, oui, je suis d'accord, mais là nous sommes en face des faits déjà accomplis. Il faut réagir. Peut-être pour l'avenir, construire une approche préventive. Lutter contre les discriminations, lutter contre la haine, lutter contre le tribalisme, oui, sont des éléments qui peuvent être mis en contribution pour une approche préventive pour l'avenir. Mais là, nous sommes en face des faits qui, depuis 30 ans, se sont commis et continuent à se commettre.
Il faut une réparation, il faut les réparer.
Voilà, il faut une réponse, il faut des réponses.
Des réponses, oui.
Voilà, les génocostes, c'est dans l'approche de réponse-réparation. Mais après, il y a quand même une problématique sur la réponse pénale, la riposte pénale. Et c'est à ce niveau-là qu'il évoque la question de l'amnistie. En règle générale, il n'y a pas d'amnistie pour les crimes de masse.
Et les gens qui sont tués, après ils sont lavés, purifiés, et puis on donne des postes.
Oui, alors c'est vrai. Sur le plan du droit, sur le plan classique, on ne peut pas amnistier celui qui a commis un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des crimes qui troublent l'ordre public international. Ce qui fait que si, dans votre pays, à cause des accords, vous prenez des lois d'amnistie, sur le plan international, ces mêmes personnes pourront être poursuivies. Sans égard à ce qui aura été fait sur le plan interne. Donc, il faut peut-être se sensibiliser pour que tous les accords qui peuvent arriver puissent éviter de ramener à la surface, ceux qui sont redevables des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans normalement, dans le processus de justice transitionnelle, il faut peut-être l'occasion de le rappeler ici, que la loi du 26 décembre 2022, c'est une des réponses du processus de justice transitionnelle. C'est l'implémentation d'un des piliers. Parce que la justice transitionnelle a quatre principaux piliers, les droits à la vérité, les droits à la justice, les droits à la réparation et les garanties de non-répétition. Et donc, on doit circonscrire la loi de 2022 dans le cadre de la justice transitionnelle que le gouvernement, par le président de la République, impulse dans l'implémentation.
Et tout cela sera abordé lors de la table ronde.
Effectivement, lors de la table ronde, il y a un exposé sur la justice transitionnelle.
D'accord.
Et qui sera fait par le professeur Luzolo Bambilesa, qui a été président du comité scientifique chargé de rédiger une politique nationale de mise en œuvre de la justice transitionnelle en RDC.
Voilà. Donc, et qui sont les participants, qui sont les autres intervenants lors de cette table ronde?
Alors, il y a tout un déroulé. Il y a le prof Ndayuel sur les aspects historiques. Il y a des ethnologues, je n'ai pas trop, et des anthropologues, Madame Sarah.
Oui, professeur Sarah. Il y aura des anthropologues, effectivement des juristes. Et au niveau des participants aussi, parce que je pense que c'est la question que posait le dernier auditeur. Donc les participants, il y aura bien évidemment la primature, mais il y aura des représentants donc de différents ministères, justice, droits humains, intérieur, défense nationale, éducation nationale, enseignement supérieur, recherche, culture et art, puisque quand on parle de mémoire aussi, il y a aussi toutes des infrastructures aussi, et donc d'y associer en fait tous les citoyens et les citoyennes en fonction de leurs propres compétences, y compris donc les artistes. Il y aura l'Assemblée nationale, donc des représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants donc provinciaux, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, des représentants des missions diplomatiques à Genève, à New York, à Bruxelles. Donc cet aspect-là, effectivement, est pris en considération. Je comprends tout à fait la préoccupation... Oui, je comprends tout à fait la préoccupation de l'auditeur de dire mais finalement il y a des discours mais dans la réalité on voit pas beaucoup de changements. Et c'est finalement la préoccupation de l'auditeur que je comprends tout à fait. La seule chose que je pourrais dire c'est qu'effectivement agir c'est aussi agir du point de vue politique, du point de vue judiciaire, du point de vue mémoriel, du point de vue de la prévention, du point de vue effectivement des de l'éducation, et que finalement là nous parlons en tant que professeurs en fonction de nos propres compétences et l'idée c'est justement d'assembler toutes nos compétences et c'est pour ça qu'on parlait aussi d'appropriation, parce que chacun peut faire des choses en fonction de ses propres compétences.
Alors professeur Sarah Liuran, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa en charge de la recherche. Alors pourquoi est-il important d'organiser cette table ronde en ce moment où le pays est en guerre? Ne fallait-il pas attendre?
Alors, je pense que l'urgence de la situation fait que on ne peut pas postposer. Les crimes se commettent tous les jours. Vous me posiez la question tout à l'heure du chiffre. Comment on peut établir un chiffre alors que les massacres continuent? Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on aurait pu dire, d'un point de vue politique, on attend que la situation se stabilise, que les crimes s'arrêtent. Mais finalement, ça fait 30 ans. Donc, finalement, quel est le moment le plus...
Le moment approprié.
Le moment le plus approprié, ça fait 30 ans que nous vivons cela. Et donc, il est important de poser des jalons et de poser, justement, une stratégie sur différents niveaux. Et ça paraît important parce que, finalement, sinon, on peut toujours se poser cette question-là. Quel est le meilleur moment? Ça fait 30 ans. Et ça continue tous les jours.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Thomas de Kisangani et Jeannot depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Thomas, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly. Bonjour à l'invité et aux invités.
Quelle est votre question, Thomas? Quelle est votre question, Thomas?
Merci de la parole. Merci de la parole que vous accordez, monsieur. Je pense que la reconnaissance internationale du crime de génocide en Amérique du Sud est un enjeu essentiel pour la justice et la prévention des atrocités. Il est nécessaire de mobiliser toute la communauté internationale pour mettre à lumière les actes de génocide qui ont été commis en Amérique du Sud, afin que les responsables puissent répondre de leurs actes. Et ne pas que ça, on a les invités sont au plateau. Je ne sais pas si, quels sont les témoignages ou combien de témoignages de survivants et de preuves qui ont été récoltées. Parce que pour que je ne couche les génocides congolais puissent être reconnus au niveau international, il faut qu'il y ait des témoignages. Je ne sais pas. Quels sont les témoignages sont là, mais combien de témoignages de survivants et de preuves qui ont été récoltés quant à ça, même si il y a des témoignages, par exemple, des études de l'ONU, mais combien de témoins du survivant ont été déjà consultés quant à ça pour récolter, en tout cas, des preuves quant à ça. Et quel est le rôle de, quels sont, en tout cas, les mécanismes internationaux qui ont été mis en place pour enquêter les crimes de génocide dans la RDC. La FPI est ici, mais de façon concrète, quels sont les mécanismes internationaux qui peuvent être mis en place pour enquêter sur, voilà, les crimes de génocide en RDC. C'est pour ça que je vous dis que passons à l'écoute.
Merci Thomas. Jeannot, vous êtes à Kolwezi. Bonjour. Bonjour Jeannot. Allô? Allô? Jeannot, vous êtes là?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Moustati.
Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'organisation de la table ronde et la reconnaissance du génocide congolais?
Ah, merci beaucoup. Merci du temps, mais désolé, je suis encore en retard. Mais si vous pouvez me permettre de placer un mot par rapport à ce qui est en train d'être organisé. Je pense que, parlons d'abord de ce qui se passe, on entend parler d'une sorte de dialogue entre le Kinshasa et les rebelles. Dans ce sens-là, moi, peut-être que je serais dans le sens contraire de tout le Congolais.
Mais il y a beaucoup de bruit autour de vous, Jeannot. On arrive à capter très bien ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de cet environnement-là pour nous permettre de bien capter votre message?
Ah, là vous m'entendez bien?
Là, ça va, allez-y.
Je disais, permettez-moi de passer un mot. Nous avons parlé d'une sorte de dialogue qui va s'organiser avec Kinshasa et les rebelles. Dans ce sens-là, moi, je considérerais, je l'ai dit hier, je crois, sur l'un de vos murs, je considérerais et le président et sa famille politique comme étant les acteurs de ce qui se passe.
Non, Jeannot, le bruit continue, en tout cas, désolé. On ne sait pas continuer dans ces conditions-là, désolé. On va prendre Jean-Arthur de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour aussi aux invités.
Rapidement, quelle est votre question, Jean-Arthur? On est presque à la fin de l'émission.
La question en est que la date pour la table ronde, ça sera quand? On n'a pas encore donné la date pour la table ronde.
Ah,
Est-ce que ça sera pour tout le monde? Ou seulement la société civile, la politique ou quoi?
Merci beaucoup, Arthur, pour cette question importante. Professeur Serge Makaya.
Merci beaucoup à messieurs les journalistes. Merci aux auditeurs pour les questions formulées. Permettez-moi d'indiquer à Roger Marcel, l'auditeur qui est passé avant, que la table ronde n'est pas une initiative privée.
Merci de vous rapprocher du micro.
La table ronde n'est pas une initiative privée. C'est comme ça que Mme Sarah a essayé de décrire les participants. En fait, c'est co-organisé par la CIAVAR et le FONAREF.
C'est quoi la CIAVAR? C'est quoi le FONAREF?
La CIAVAR, c'est la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Et le FONAREF, c'est le Fonds national de réparation des victimes. Et la CIAVAR, c'est un organe consultatif qui accompagne le FONAREF dans la mise en œuvre de sa mission.
Un organe interinstitutionnel.
Interinstitutionnel dirigé par le président de la République.
D'accord.
Et donc la table ronde est placée sous le haut patronage du président de la République. Et donc c'est pas une initiative privée. C'était important de le souligner parce que Monsieur Roger Marcel voulait bien savoir si tout ce qui s'est dit dans toutes les initiatives privées ne peuvent pas être rapportées aux gouvernants pour une implémentation. Voilà, donc ici, c'est vraiment gouvernemental et c'est même au plus haut au niveau de la gouvernance congolaise.
Alors, quand est-ce que la table ronde aura lieu?
La table ronde est prévue du 31 mars au 3 avril.
Avril.
31 mars au 3 avril, c'est au centre culturel qui aura...
Et artistique de Kinshasa, en face du Palais du Peuple.
Voilà. D'accord. Et c'est là, c'est plus de 800 personnes qui sont attendues, parce que là, c'est quand même une table ronde nationale.
Il y aura des délégués qui vont venir de différentes provinces.
Bien sûr, bien sûr.
Professeur Serra.
Et aussi, je voulais souligner aussi que la société civile a aussi sa place et a aussi sa place avec comprenant aussi donc des victimes et des leaders d'opinion. C'était le point sur.
Monsieur Arthur veut savoir s'il peut participer.
Alors, c'est très difficile sur le plateau d'apporter une réponse précise à son souhait, parce que dans l'organisation, nous ne sommes comité scientifique, nous nous occupons de l'aspect technique.
Est-ce qu'il y a une adresse ou un numéro?
Oui, c'est le Fonarev, je crois.
On peut appeler pour en savoir un peu plus.
Bon, on va peut-être vous donner ces numéros à la fin de l'émission.
D'accord.
Ça vous mettra à la disposition. Je voudrais plutôt revenir sur ce que M. Thomas a dit. C'est important, la reconnaissance.
Les témoignages des survivants,
oui,
tout
oui,
ça.
Oui.
Alors, avant cela, permettez, on va suivre les réactions des internautes qui sont lues par notre consoeur Élise Kavira. Suivez.
Bonjour, Jody. Nous avons Mathieu Madian depuis Kisangani qui dit « Nul ne peut ignorer 3 ans plus tard l'événement Russie-Ukraine. La manière dont on connaît cette situation, c'est de la même manière que ça se passe en République démocratique du Congo. D'ailleurs, tous les voisins de la RDC sont témoins parce qu'ils reçoivent et hébergent des milliers de citoyens congolais ayant fui la guerre. Ici, on n'a donc plus besoin des preuves. L'agresseur est aujourd'hui connu, mais derrière lui, il y a des mains mises. C'est lui qui s'élèvera pour demander la preuve du génocide et aussi coupable. Blaise Saïdi, à tout bout depuis Kisangani, dit « L'obtention de la reconnaissance internationale du génocide congolais nécessite des actions diplomatiques, juridiques et des plaidoyers au niveau international. Il faut une documentation des crimes, une mobilisation de la communauté internationale, des recours aux internationales, une pression diplomatique, un soutien aux victimes et aux survivants et une reconnaissance par l'Organisation des Nations Unies. Notons que le chemin vers la reconnaissance d'un génocide est complexe et souvent long et il peut se heurter à des considérations géopolitiques ou diplomatiques. Par exemple, pour les atrocités commises par le M23 en République démocratique du Congo, est-ce que l'État congolais a déjà fait appel à des institutions internationales telles que la CPI ? Il est rejoint par Christian Politassi qui dit « Une fois ces éléments réunis, le Conseil de sécurité peut adopter une résolution instituant un tribunal spécial pour juger les crimes des génocides perpétrés sur le territoire congolais. Car il ne suffit pas de faire reconnaître le génocide, encore faut-il que ce soit poursuivi et sanctionné les auteurs de ces actes de barbarie pour décourager une tentative présente et à venir. »
Merci beaucoup Élise pour cela, pour tous ces commentaires des internautes sur la page Facebook de l'émission au Cap-CFC. Professeur Makaya, alors on n'a plus beaucoup de temps, en quelques secondes, vous pouvez répondre rapidement à cette préoccupation-là.
Alors, il faut dire que à M. Thomas que le processus de construction d'un plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo n'a fait que commencer. Il n'est pas encore arrivé au bout. D'ailleurs, il y a une projection d'un colloque international sur cette question au mois de juillet. Pour l'instant, c'est la réflexion juste pour sur la nécessité de construire ces plaidoyers,
voilà,
pour la reconnaissance internationale. Et donc, on est dans la phase embryonnaire. Évidemment, dans l'implémentation de ces processus, il y aura besoin des outils de recherche.
Dommage, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste que quelques secondes. On va conclure par ici. On aura l'occasion peut-être de revenir dessus prochainement. Merci, professeur Serge Makaya Kela, membre de la coordination du comité scientifique préparatoire de la table ronde. Merci également au professeur Sarah Liouerante, directeur adjointe de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, en charge de la recherche et chercheuse associée au CRECH, centre de recherche en sciences humaines. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci. Merci. Merci.